418-971-1021, 418-971-1021, c'est 8 degrés sur Québec. C'est nuageux, quand même confortable.
Hein?
On chialera pas trop. À certains endroits, il pleut. Pour ce qui est de Québec, ben, c'est un maximum de 11 qu'on attend pour aujourd'hui. Demain, c'est des averses entre 15 et 25 mm annoncées, maximum de 14. Le week-end, c'est souvent ce qui nous intéresse pour ce qui est de la météo. 70% de probabilité d'averses samedi avec un maximum de 9. Et dimanche, ben là, tout d'un coup, le soleil est revenu. Parce que hier, on nous annonçait des nuages avec des probabilités d'averses. Ben là, on nous parle d'une alternance de soleil-nuages pour dimanche avec 40% de probabilité d'averses, maximum de 11. Et lundi, ben, ce serait plein soleil, alternance de soleil nuages avec 30% de probabilité d'averse, maximum de 12 degrés. All right, hey, on parlait de politiciens qui se disaient victimes d'harcèlement. On parlait du fameux projet de loi 57 qui a été présenté à l'Assemblée nationale qui permettrait d'instaurer une sanction entre 500$ et 1500$ à toute personne qui entraverait l'exercice de la fonction d'un élu municipal ou d'un député de l'Assemblée nationale. Et on a le plaisir de jaser avec Maria Mourani, qui est criminologue. Puis la raison pour laquelle, on va parler d'un autre sujet tantôt, mais la raison pour laquelle je veux commencer avec ça, c'est qu'elle, elle a été députée fédérale. Madame Mourani, bonjour.
Bonjour.
Quand vous étiez députée fédérale, en aviez-vous du harcèlement constant de la part des citoyens, des messages, des courriels qui rentraient dans vos boîtes de courriels qui disaient « Madame Mourani, ce que vous faites là, ça n'a pas de maudit bon sens. Vous êtes une incompétente. »
Je vous avoue, jamais de ce type-là.
Ah non?
Peut-être trop compétente. Vraiment pas. En fait, je vous avoue bien franchement, j'ai beaucoup eu plus d'harcèlement de collègues,
ouais,
que de la population en tant que telle.
Ah oui?
Ouais. Et j'ai eu vraiment des propos plus haineux. C'est quand j'ai quitté le Bloc québécois. C'est là que j'ai vraiment eu beaucoup de courriels de personnes qui n'étaient pas contentes que je quittais le mouvement souverainiste, là. C'était plus ça, moi, mon époque où... C'est le bon moment quand j'étais députée où j'ai reçu des messages haineux, racistes, etc. C'était vraiment un épiphénomène à ce moment-là. Mais durant toute ma carrière de députée, omis cet épiphénomène, j'ai pas vraiment eu à vivre des propos insultants, sexistes. Non, j'avais plutôt des très bons, des bons feedbacks. Les gens me communiquaient pour me rapporter des injustices ou ils étaient pas contents de telle ou telle affaire. Mais ça me concernait pas directement, c'était pour me rapporter des événements. Et vraiment là où j'ai eu beaucoup de commentaires haineux et d'une certaine partie, je pourrais même faire un profil, si vous voulez, de ceux qui communiquaient avec moi à ce moment-là. Donc pour moi, c'est pas la population, mais c'est plus de certains individus, ouais, qui sont dans le mouvement souverainiste, qui là, bon, avaient des propos sexistes, racistes,
ouais,
etc.
Parce qu'avec le projet de loi 57, Mme Mourani, ce qu'on se posait comme question, c'est que dans le code criminel, le harcèlement est déjà là. Qu'est-ce qui va apporter de plus le projet de loi 57? Comment on fait pour déterminer ce que c'est que du harcèlement criminel puis ce que c'est que du harcèlement?
Ben, vous avez raison. C'est que déjà dans le code criminel, on a déjà tout ça. Maintenant, peut-être que c'est un geste plus symbolique qu'autre chose, parce que de toute façon, le code criminel, il est fédéral. Donc, c'est pas une province qui peut changer ça. Hein. donc, au fond, je pense que c'est plus un geste symbolique qu'ils veulent poser pour montrer que, bon, c'est inacceptable. Mais moi, je vous avoue bien franchement, je pense que c'est quelque chose qui doit être appliqué à tout le monde. C'est pas juste aux élus. Oui, c'est vrai, les élus sont plus exposés parce qu'ils sont une figure publique, mais ça peut être autant les acteurs, les actrices, les chanteurs, les chanteuses. En fait, les gens qui sont publics, vont être la cible de ce genre de harcèlement parce que, pour toutes sortes de raisons, hein, autant ils vont être la cible d'admiration et d'adulation, hein, parce que ça, on ne le regarde pas, on parle quand ils sont victimes de propos haineux ou disgracieux ou racistes, etc. Mais il y a aussi tous les fan clubs, hein.
Ouais.
Faut pas oublier, c'est-à-dire quand on est une personnalité publique, on est soit aimé, soit détesté. C'est très rare qu'on soit entre les deux.
Mais des fois, on est trop aimé aussi. Tu sais, on en voit des gens un peu fanatiques avec des Véronique Loutier et autres, Kevin, tu sais, du moins qui se font harceler dans le côté entre parenthèses positif qui devient très négatif
ouais.
aussi là.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire les fan clubs là en Corée là, c'est terrible. Les personnalités, surtout de la K-pop et tout, ils ont même plus de vie là. Ils n'ont pas le droit de tu sais, si y en a un qui crouse une autre personne ou qu'on trouve qu'il est avec une fille alors que ce gars-là est idolâtré, ils veulent presque pas qu'il ait une vie autre que celle qu'il présente. Dans son show ou bien dans les films, etc. Ça, c'est un autre problème, là. Et parfois, certaines de ces personnes-là vont faire de l'érotomanie. C'est-à-dire qu'elles vont développer toute une relation amoureuse inexistante et ils vont carrément en faire une fixation. Ça, c'est autre chose encore. Bon, c'est très minoritaire, mais vous avez raison de le mentionner. Ça peut être de l'autre bord. C'est-à-dire qu'on aime tellement cette personne qu'on en vient à la harceler aussi. Vous avez raison.
On vit dans un monde particulier, Madame Mourani. Dans le Journal de Québec d'aujourd'hui, vous signez un texte d'opinion. Vous êtes criminologue et sociologue. Vous parlez de la démocratisation de la violence, puis vous dites que la violence peut être perçue parfois comme un peu plus intense, plus fréquente, qui impliquerait des auteurs de plus en plus jeunes. Est-ce que, oui ou non, il y a plus de violence qu'avant? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou les chaînes en continu qui nous fait croire ça? Puis est-ce que les auteurs de cette violence-là sont de plus en plus jeunes?
Ben c'est ça, c'est ce que j'amène un peu dans la chronique. C'est de dire, est-ce que vraiment les jeunes sont plus violents qu'avant? Est-ce que c'est vrai que c'est de plus en plus jeune, etc.? Puis d'abord, il y a très peu de données là-dessus. Habituellement, quand on va voir les données d'homicide, on va regarder certaines données de victimisation, mais il y a très peu de données. Et mon grand questionnement, c'est de dire, est-ce que c'est une impression ou bien est-ce que c'est une réalité? Puis en même temps, les données, là, on peut leur faire dire ce qu'on veut, hein, au fond. Ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, ça dépend de comment on l'interprète, la donnée. Donc, au bout du compte, moi, ce que je constate davantage, je peux pas dire qu'il y a plus de violence, moins de violence. Je pense qu'elle est beaucoup plus visible, peut-être, parce que on est vraiment connecté, hein, avec le monde. Mais par contre, ce que je constate, c'est que les enfants de plus en plus jeunes vont être exposés à la violence de manière massive. C'est-à-dire, avant, on pouvait s'attendre, dans certains milieux un peu dysfonctionnels, des milieux criminogènes, où il y a de la violence intrafamiliale, les jeunes vont être exposés à la violence dans certaines écoles. On était habitué un peu à ça. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne habitude, mais c'était communément des choses qu'on voyait. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec la rapidité d'Internet, les jeunes sont exposés de plus en plus jeunes, donc presque autour de 5-6 ans. Hein. On peut se dire comment ça se fait qu'on a des jeunes de 5-6 ans sur Internet, mais il y en a. Puis plus ça va, plus on rentre dans l'adolescence, plus on constate que les jeunes sont bombardés, c'est vraiment le mot bombardés, d'images, de vidéos, de propos violents et pornographiques. Donc c'est vraiment les deux mainstream, là, je dirais, porno et violence. Et ce que ça fait, c'est que, et le pire dans tout ça, c'est que les algorithmes vont générer un peu le contenu que tu auras regardé peut-être une fois ou par hasard. Tu reçois un contenu violent par hasard. Et l'algorithme, parce que tu as juste pris le temps de le regarder un petit peu, l'algorithme va te bombarder avec ce genre de contenu-là. Donc au fond, Non seulement les jeunes sont exposés très tôt à la violence, d'une part, ce qui est psychologiquement non adéquat parce que les jeunes qui sont très jeunes vont avoir un certain traumatisme face à ces violences-là ou à ces pornographies-là auxquelles ils sont exposés sans le vouloir. Mais en plus de ça, c'est plate parce que de plus en plus, ça va être comme ça. Plus l'IA va se perfectionner, plus c'est ça qu'on va voir. C'est que c'est même plus les parents qui vont élever leurs enfants. C'est l'intelligence artificielle qui va les élever, tout simplement, en les bombardant de messages que l'algorithme voudra leur donner. Et ce que ça fait des jeunes qui ont une... Comment je peux dire? Qui sont plus à risque de violence.
Ouais, puis qui sont peut-être insensibles aussi face à des gestes violents minimes, peut-être. Parce que quand on regarde toujours l'extrême, à un moment donné, ce qui est rendu inacceptable, tu dis, ben là, c'est pas si pire que ça.
J'ai vu
encore pire, j'ai entendu encore pire. Vous dites, vous donnez des statistiques assez intéressantes. Vous prenez exemple des homicides. Vous dites, 2022, Statistique Canada rapportait une augmentation des homicides commis par des mineurs et que celle-ci était deux fois supérieure à la moyenne des 10 dernières années, votre réflexe serait de croire que les jeunes sont de plus en plus violents. Pourtant, à bien y regarder, c'est une augmentation qui représente 90 jeunes dans tout le Canada. Et là, vous dites, une bonne partie des homicides ont été commis. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, Mme Mourani va me sortir Montréal, va me sortir Toronto. Mais c'est au Manitoba.
Ouais, ouais, ouais. Les prairies, Manitoba, Saskatchewan, on va souvent voir des pics de violence là-bas, beaucoup de violence aussi intrafamiliale et tout. Puis ça donne ça augmente les taux hein, canadiens, c'est ça aussi. Et paradoxalement, le Québec est présente toujours des faibles taux. Le Québec, dans les indices, on voit que le Québec est toujours avec des faibles taux. Donc, au fond, il faut bien regarder les chiffres. 90 jeunes dans tout le Canada. Je m'excuse, là, c'est pas... On n'est pas au Salvador, là. Hein. On n'est pas vraiment dans des contextes. C'est sûr que chez nous, lorsqu'on le ramène à notre niveau, on se dit, ouais, il y a une augmentation. Mais si on regarde le diagramme, par exemple, on va avoir des pics en 2009, en 2006. C'était autour de 80. C'était pas 90, parce que 90, c'était 2022, mais... Il y avait 80 ou plus, un peu plus que 80. Donc, il faut faire attention un peu aux chiffres. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de violence, que les jeunes sont plus violents. Là, on a vu des événements où il y avait des jeunes de 13 ans qui étaient impliqués. Ouais. Mais il faut savoir que dans les... c'est-à-dire, lorsqu'on regarde les 12-17 ans, on se... Habituellement, dans les actes de violence, on voit que c'est davantage les 15-16 à 10, je dirais même 22 ans, qui vont être plus propices à des actes de violence et avec armes à feu ou armes blanches, par exemple.
Selon les études, ah oui, c'est intéressant, ça, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est plus ces périodes-là qu'on voit que la violence, il y a utilisation d'armes, quand c'est autour de 16, 17, 18, jusqu'à à peu près 22, 23. Mais les périodes où il y aurait plus de violence, c'est-à-dire lorsqu'on prend une cohorte de jeunes qui ont été, par exemple, arrêtés pour des actes de violence avec armes à feu, on va constater que là, l'âge où il y a le plus d'utilisation d'armes, si on prend une cohorte de jeunes ayant commis des actes violents, on va voir que c'est plus les jeunes adultes que les adolescents. Mais que quand ça commence à l'adolescence, on le voit plus autour des 16 ans, 15-16 ans. Les 13 ans, c'est pas eux qui sont les plus présents dans ce genre d'actes de violence-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention parce que même la violence en général, ben, c'est davantage les adultes qui commettent des actes de violence que les mineurs. C'est pour ça que je conclue ma chronique en disant, est-ce que vous croyez qu'une société violente peut produire des colombes? Non. Ben, quand tu vis dans une société violente, tu exposes tes enfants à la violence, tu peux t'attendre que certains d'entre eux, c'est pas tous, parce qu'il y a des enfants qui viennent de familles très violentes, qui ont vécu de la violence, mais qui ne seront pas violents, qui ne vont pas commettre d'actes de violence. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas étiqueter certaines catégories de population. Il y a même des jeunes qui vont vivre énormément de violence et qui vont avoir une grande résilience et qui vont utiliser leur passé, leur vécu pour aider d'autres personnes, pour aider d'autres jeunes.
Mais c'est difficile, Mme Mourani, en tant que parent, d'essayer d'éloigner nos enfants de cette violence-là. Quand nos enfants décident de jouer à des jeux vidéo, quand ils décident de regarder des petites vidéos sur le cellulaire de papa et tout ça...
Se tenir avec des amis dont on ne sait pas toujours c'est quoi les discours, qu'est-ce qu'eux regardent en tant que amis.
C'est difficile, là. On dit oui pour certains jeux, non pour d'autres. Là, moi, j'avais dit oui pour Fortnite, que je trouvais assez léger. Puis l'autre jour, je regardais mes gars jouer, puis j'ai vu que dans Fortnite, tu peux avoir comme deux stades de mort. Là, la première, c'est tu tombes à terre, puis tu rampes. Puis après ça, la deuxième, c'est que le bonhomme te tue complètement.
Tu agonises, puis tu finis.
Mais mettons que c'est réel, là, ben c'est achever la personne. Ouais. La personne rampe à terre, puis tu l'achèves. Puis là, j'ai dit à Isaac, c'est quoi ce jeu-là? Ben là, c'est une nouvelle fonction, là, je joue à ce jeu-là.
Ça, t'avais pas vu ça.
Je l'avais pas vu. Mais c'est carrément achever son partenaire de jeu.
Exactement.
Quand on regarde ça. Fait que faut se poser des questions en tant que parent. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter que nos enfants, tout dépendant de leur âge, bien entendu, puis de pas les garder comme dans un vase clos où, à un moment donné, quand ils vont sortir à 20 ans, ils vont s'apercevoir que la vie n'est pas si rose que ça. Il y a de la noirceur. C'est important de leur dire que des fois, il y a de la noirceur. Il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont méchants. Mais oui, on surexpose nos enfants à la violence, malheureusement.
Bien, c'est ça. C'est qu'au fond, là, techniquement, 10 ans, je dirais même 7 ans, un enfant ne devrait pas être devant un écran. Du tout, même. Ne devrait pas aller jouer à ces jeux-là. Devrait pas. Ça devrait être des livres, ça devrait être se sortir dehors, ça devrait être de faire d'autres choses avec le parent. Ouais. Mais les parents sont tellement pris dans leur propre vie. C'est pas tous les parents. Moi, je connais des parents, là, quand je m'en vais dans les écoles secondaires, la première question que je pose quand je fais les ateliers de prévention de cyberviolence, je leur dis qui a des cellulaires dans la salle, dans la classe? 99% ont des cellulaires et ils ont 12 ans. Je m'excuse, là, il faut voir. Et la seule fille ou le seul gars qui n'a pas de cellulaire, peut-être, puis qui lève sa main, là, il s'en pognait dans ses babettes parce qu'il est regardé comme s'il était un extraterrestre.
Oui.
Donc, c'est ça qui est, c'est la normalité est devenue anormale.
Ouais.
Et ce qui n'est pas normal est devenu normal.
Ouais.
J'aime pas utiliser ce mot normal. Parce qu'il sait l'étiquette, mais bon, je l'enlève même. Je supprime ce mot. Je veux dire ce qui est logique. Le gros bon sens, là, OK, il est devenu anormal. Comprenez ce que je veux dire?
Ouais.
Le gros bon sens, c'est devenu comme, wow, t'as pas de cellulaire. Tu sais, puis à 6 ans, là, moi, j'ai des parents, là, OK, à 6 ans, leur jeune, il est sur la tablette. Je sais que ça aide le parent qui est débordé. Puis, ça, c'est devenu comme un moyen de dire, bon, ben, allez, occupe-toi avec ça. Avant, c'était les dessins animés. On mettait nos enfants devant les dessins animés, puis on avait la paix, entre guillemets. Mais bon, là, maintenant, c'est les tablettes. Alors, entre le dessin animé super éducatif et le fait de le mettre devant, ça, puis parfois, il y en a que l'Internet est quand même là. Donc, mais
le dessin animé aussi, même s'il n'était pas éducatif, à des heures d'écoute d'enfants, là, ce qu'ils jouaient, c'était des affaires d'enfants, même si c'était niaiseux ou pas. Puis la tablette, en tout cas, moi, à un moment donné, ma fiole était supposée regarder des affaires de camions qui rentrent dans un autre, de jeunes, là. Puis on arrive, on dit, t'es rendu où, là? Puis là, elle avait pianoté sur des affaires d'adolescents qui montraient des. Puis là, on a dit, whoop, on est rendu un petit peu trop loin, ça arrive pour les enfants aussi.
Il faut toujours exercer une certaine forme de surveillance.
J'aurais une dernière question, moi, en termes. terminant pour vous, Mme Mourani, parce que c'est une discussion qu'Yannick et moi, avec Tom et tous les auditeurs, finalement, on a de façon assez régulière quand il y a un gros fait divers dans l'actualité. Un fait divers comme un confinement dans une école où là, il y a eu une violence, ou peu importe. Puis on se pose la question, tu sais, comment aborder ça avec nos jeunes? Je sais que vous n'êtes pas une spécialiste, une psychiatre, pédopsychiatre, peu importe, mais vous, avec votre rôle de criminaliste en société, pensez-vous que les enfants, on doit leur expliquer ce genre de situation-là? Si oui, comment?
Oui, tout à fait. Il faut en parler parce que la pire des choses pour créer la peur, c'est de ne pas en parler. C'est-à-dire, lorsqu'on ne démystifie pas un phénomène, l'enfant ou le jeune va se faire ses propres scénarios dans la tête. Et généralement, ce n'est pas les meilleurs scénarios parce qu'il va s'auto... il va avoir peur et il va développer une angoisse, de l'anxiété. Ou quand ils sont adolescents, ils vont aller chercher l'information de la mauvaise manière sur Internet.
Alors, en le couvant, on l'expose encore plus à de l'anxiété ou du stress.
Oui. Oui, c'est-à-dire, en fait, au contraire, lorsque vous expliquez les choses à votre enfant et que vous l'expliquez en fonction de son âge, et puis bon, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez aller lire là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, comment parler, par exemple, de sexualité, de violence, comment parler d'une attaque dans une école à un enfant de 6 à 10 ans, de 14 à 15 ans. Donc, comment parler? Vous pouvez trouver pas mal d'informations sur Internet ou même à la bibliothèque, mais il faut en parler. Parce que, et même moi, ce que je conseille même, c'est d'en parler avant que ça arrive. C'est-à-dire, par exemple, autour de l'âge de 6, 7 ans, mais je dirais mieux 7, 8 ans, vous pouvez commencer déjà à parler des cyberviolences, de la sexualité, à l'âge de 7 ans, ok? C'est-à-dire en fonction de l'âge, pas n'importe comment. Vous pouvez parler des drogues, vous pouvez parler des gangs. Moi, mes enfants, je leur ai tout parlé de ça à 7, 8 ans. Parce que les enfants sont beaucoup plus matures qu'avant, parce qu'ils sont exposés sur Internet. C'est des cyber-enfants, les enfants de maintenant. Et puis ceux qui s'en viennent, là, ça va être encore pire. Non seulement c'est des cyber-enfants, mais qui vont être à l'ère de l'intelligence artificielle hyper développée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les enfants vont sur Internet, même s'ils ne sollicitent pas un certain contenu, comme vous l'avez bien exprimé, votre enfant, il était sur autre chose, puis d'un coup, vous venez vous vérifier, puis là, vous voyez qu'il est sur des trucs plus adolescents. Donc, l'algorithme, lui, va fider l'enfant de contenu qui n'est pas adapté à son âge. Et c'est là que le rôle du parent est important, de vraiment vérifier. Mais quand vous vérifiez quelque chose que votre enfant, il a vu, par exemple, un contenu violent, faut pas mettre ça en dessous de la couverte et puis dire, bon, on n'en parle pas, puis bon, c'est juste une image. Parce qu'il faut savoir que l'image, surtout quand c'est des images pornographiques très violentes, elle s'incruste dans la tête du jeune. C'est-à-dire, l'enfant va vivre un mini traumatisme. Et il va cogiter ça, il va se poser la question, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça a été comme ça? Qu'est-ce que ça veut? Donc, au fond, il faut ramasser ça, puis dire, bon, je vais t'expliquer. Puis là, vous expliquez à l'enfant et vous dédramatisez la situation. Mais surtout, vous en profitez pour faire de la prévention, de comment tu agis quand tu es abordé comme ça par ce genre de personnes-là. C'est quoi ces images-là? Là, vous expliquez et vous dédramatisez, mais surtout vous faites de la prévention pour pas que l'enfant aussi se dise « Oh, ben, c'est pas trop grave ça ». Non, il faut le sensibiliser. Et ça, c'est le rôle du parent. C'est pas juste l'école qui peut faire ça.
Maria Mourani, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite de passer une belle fin d'après-midi.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Merci. Bye-bye, Maria Mourani, qui est criminologue et sociologue. Elle signe un papier ce matin, « La démocratisation de la violence » dans le Journal de Québec. Je vous invite à lire ce papier-là. On fait une courte pause et on vient.
Marceau le midi.